BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On a une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. On est d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Il est 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business qui débute, c'est tous les soirs, 18h-20h sur BFM Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
On a une mobilisation qui monte en puissance, ça y est, contre la réforme des retraites. On a été une semaine, vous savez bien sûr, de la première journée d'action. Ça commence à bouger du côté des raffineries, mais pas que, ça bouge dans pas mal de secteurs. On va voir ça avec Caroline Morisseau dans un instant.
Et nous avons aussi une bonne nouvelle. Si vous détenez de l'assurance vie, figurez-vous que le taux de l'affaire qui sert de référence sur le marché va augmenter au titre de l'année 2022. Ouais. Il va passer à un peu plus de 2%. On vous donne toutes les précisions tout à l'heure.
Et puis dans un quart d'heure, on parlera événements et salons d'entreprise avec le patron de Vipari. Alors Vipari, c'est Villepinte, c'est le Bourget, c'est le parc des expositions, c'est le palais des congrès. Est-ce que les grands événements sont de retour? Est-ce que le digital a pris la main, comme certains nous le disaient pendant le Covid. On en parlera avec le patron de Vipari dans un quart d'heure.
Et puis ensuite, à 19h30, les économistes Élie Cohen et Nicolas Bouzou seront les invités d'Edwige Chevrillon. C'est dans une demi-heure.
Voilà le programme. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc cette contestation qui monte en puissance à une semaine de la première journée d'action contre la réforme des retraites. Ce matin, c'est donc la CGT Pétrole qui a annoncé déjà un mouvement de grève pour le 19 janvier prochain. Mais d'autres sont en train de se préparer en silence. On voit tout ça avec Caroline Morisseau.
L'ensemble des syndicats de la SNCF ont appelé à une grève puissante dès le 19 janvier. Mmh. Même chose à la RATP, où là encore le communiqué est signé par l'ensemble, absolument tous les syndicats. Autre exemple, FO Transport et Logistique, qui rassemble notamment les routiers, appellent eux aussi à la grève. Dernière en date, ce soir, là, la Fédération nationale des ports de la CGT vient, elle aussi, de déposer un préavis. En fait, ça tombe d'heure en heure. Et puis, fait rarissime, les 8 organisations de la fonction publique ont appelé l'ensemble de leurs agents à se mobiliser. Donc, sauf surprise majeure, les journées d'action jeudi prochain, 19 janvier, risquent d'être très, très perturbées.
Est-ce qu'au-delà du 19 janvier, alors peut-être une question sans réponse, faut s'attendre à un mouvement dans la durée, finalement?
Alors, effectivement, c'est dur d'y répondre. En tout cas, ce qu'espèrent les syndicats, le scénario qu'ils ont en tête, c'est 1995, lors du plan et de la réforme Juppé. À l'époque, les manifestations avaient rassemblé entre 1 et 2 millions de personnes. Les mobilisations avaient duré plusieurs semaines jusqu'à ce que le gouvernement finisse par lâcher du lest et par reculer. Même en même temps, les syndicats ont parfaitement conscience que le contexte n'est pas le même. Ils savent absolument pas si le mouvement, si la mayonnaise peut prendre. Ouais. On sait que traditionnellement, les mouvements de contestation sont plus forts en période de reprise qu'en période de crise. En fait, l'inflation est à double tranchant. Ouais. Ça alimente la colère, mais ça alimente aussi les inquiétudes. Ça pose des problèmes de pouvoir d'achat et faire grève, ça coûte cher. Et puis l'autre élément, tout dépendra aussi de l'opinion publique. Selon le dernier baromètre Odoxa, on sait que pour l'instant, les syndicats ont le soutien majoritaire des syndicats. Les trois quarts des Français sont opposés à cette réforme. Est-ce qu'ils continueront toujours à soutenir les syndicats quand ils n'auront plus de train? Enfin, si c'est le cas, s'ils n'ont plus de train, s'ils n'ont plus de métro, s'ils n'ont plus de carburant, c'est loin d'être gagné.
Bon, donc premier test le 19 janvier, on est d'accord.
Exactement, ça donnera un premier indicateur, en tout cas, du nombre de manifestants. Après, ce qui compte au-delà du nombre de manifestants, c'est surtout la capacité des syndicats, parfois une poignée de personnes, à bloquer le pays.
Voilà, Caroline Morisseau avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Alors, quand même un mot de cet appel à la grève du côté de la CGT Pétrole. Est-ce qu'on s'apprête à revivre finalement ce qu'on a connu il y a environ 2-3 mois, c'est-à-dire des pénuries de carburant dans les stations-service? Écoutez ce que nous disait l'ancien patron de l'UFIP, Jean-Louis Chilanski. Pas forcément, mais restons prudents quand même. Écoutez son message.
La dernière fois en septembre, on n'avait pas vraiment pu venir, et puis ça avait finalement assez mal tourné. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les deux mouvements prévus, le 19 et le 26, devraient avoir un impact, mais alors vraiment minimal. 24 heures de grève ou 48 heures de grève sans arrêt des raffineries, ça devrait pas toucher l'automobiliste. Pour le 19 et le 26, 24 heures, 48 heures, ça aura un impact économique sur les raffineries, sur les opérateurs, mais pas sur les automobilistes. Par contre, cette affaire du 6 février, c'est tout à fait autre chose. Parce que là, ils annoncent éventuellement un arrêt des raffineries, ils annoncent éventuellement un prolongement de la grève, Et puis je vous rappelle aussi ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le 6 février, c'est le démarrage de l'embargo sur les produits pétroliers en provenance de Russie. Et donc là, il y a une conjonction à laquelle il faudra être très, très attentif. Les entreprises étaient en première ligne, Total, Esso, c'était sur eux qui était la grève. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas.
Ouais.
S'il y a une grève de longue durée, c'est une grève nationale en quelque sorte. Et donc, ceux qui seront en première ligne, ce n'est pas les opérateurs, hein, ce sera le gouvernement.
Voilà, Jean-Louis Chilansky, l'ancien patron de l'UFIP, qui était avec nous tout à l'heure dans le grand débat, a surveillé quand même ces nouvelles possibles grèves du côté des raffineries et des dépôts de carburant, Audrey, quand même. Hein.
Ben oui, bien sûr, puisque nous sommes toujours en train de chercher des alternatives justement à la non-approvisionnement de la Russie. Donc, si on arrête de produire en France, évidemment, on se tire une balle dans le pied. Je précise juste que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, tout le stock n'est pas en raffinerie. Hein. Oui. On a 200 dépôts en France qui permettent d'irriguer le réseau des stations-service.
Donc on pourra peut-être éviter le pire, en tout cas de revivre le scénario qu'on a connu l'automne dernier. Il faut espérer, évidemment. 19h06. Je vous disais, on va parler assurance vie, parce qu'on a eu connaissance aujourd'hui du taux de rendement pour 2022 de l'AFER, qui est, vous le savez, la principale association d'épargnants en France. On va en parler avec Philippe Crevel, qui est avec nous en visio, comme on dit. Bonsoir Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Ce taux, il est à 2,01% sur 2022. C'est un peu plus que 2021. On était à 1,7%. Comment est-ce que vous regardez cette évolution, Philippe Crevel ?
Depuis le début des annonces de taux par les assureurs, on constate donc une augmentation des taux de rendement 2022 par rapport à 2021 entre 0,4 et 0,5 points. Évidemment, c'est lié au contexte d'inflation et c'est lié également à la remontée du taux du livret A. Même si ce sont deux produits de nature différente, les épargnants regardent l'un et l'autre. Le taux du livret A sur l'ensemble de l'année 2022 a été de 1,37% et on voit que l'affaire, en mettant un peu plus au-dessus de 2%, quand on a enlevé les impôts, on se retrouve à peu près au même niveau que le livret A. Je pense que ce n'est pas innocent. Et puis, il faut voir que ce mouvement de taux qu'on constate chez les assureurs, c'est la première remontée en fait, importante depuis une dizaine d'années où on a accumulé des baisses du fait de la diminution des taux d'intérêt sur les obligations d'État.
Est-ce que pour autant, ça va suffire à mettre un petit peu de baume au cœur justement aux bénéficiaires de l'assurance vie en France, pour vous ?
2%, c'est mieux que 1,7%.
Oui.
C'est sûr que ce n'est pas avec les fonds euros qu'on a un rendement réel de son épargne positif. Pour l'année 2022, ça va faire un rendement réel négatif d'à peu près 3 points. Et c'est vrai que c'est un précédent. Il n'y a pas de précédent plutôt sur le sujet. Et donc, pour avoir du rendement, il faut aller plus sur les marchés, sur les unités de compte et accepter la prise de risque.
Ça, c'est ce vers quoi poussent de plus en plus banquiers et assureurs, justement, aller sur un peu plus de risque. Mais dans un contexte aussi incertain que celui que nous vivons à l'heure actuelle, c'est pas facile quand on a de l'assurance vie d'aller prendre ces risques, forcément, Philippe Crevel. Hein.
Alors, il faut voir que c'est vrai qu'en 2022, les bourses ont été chahutées, le CAC 40 a perdu 8%, mais on constate d'ailleurs depuis le début du mois de janvier une forte reprise du cours des actions. Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, on avait fait un gain de 28%. Il faut toujours apprécier les unités de compte sur une période longue de 4 à 5 années. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les actions, les unités de compte, il y a les dividendes, il n'y a pas que la plus-value des titres.
C'est vrai.
Ce qu'il faut intégrer, c'est que dans le monde des actions, on a deux choses, les dividendes et le cours des actions.
Ça peut permettre effectivement de prendre un peu plus de risques. Merci beaucoup Philippe Crevel, merci d'avoir été avec nous ce soir quelques instants. Le directeur du Cercle de l'Épargne avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. 19h09, l'inflation justement, est-ce qu'elle va faire exploser les prix dans les grandes surfaces? Parce qu'entre les hausses de prix réclamées par les producteurs et un projet de loi dont on vous a parlé qui vise à encadrer davantage les promotions, eh bien les distributeurs s'inquiètent, ils redoutent vraiment un dérapage des prix dans les prochains mois. Stéphane Pedrazzi nous raconte ça.
Un mois et demi avant la fin des négociations commerciales, les distributeurs redoutent déjà une flambée des prix dans les supermarchés. Interrogé sur RMC, Michel Biérot, le patron de Lidl en France, constate une envolée des tarifs proposés par les producteurs.
On a actuellement des propositions de hausse tarifaire de la part de nos fournisseurs
qui sont à deux chiffres. Ça va, pour certains, jusqu'à 49% de hausse demandée.
Un constat similaire à celui de Michel-Édouard Leclerc, qui soulignait récemment des hausses de prix, comprises entre 10 et 39% de la part de ses fournisseurs. Les distributeurs s'inquiètent également du projet de loi Descrozaille qui sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et dont l'objectif est d'encadrer davantage les promotions.
C'est une loi pro-inflation. Ça va exploser. C'est pas moi qui le dis. Le président de la FEF, qui est le patron des PME, des ETI et des TPE, a dit dans la presse, ça va entraîner des hausses de 30 à 50% sur les étiquettes des rayons.
Des hausses de prix qui risquent d'entraîner un ralentissement de la consommation alors que les Français procèdent déjà à des arbitrages. Sur la première semaine de janvier, les ventes de produits alimentaires ont reculé de 9% en grande surface et celles des produits d'hygiène de pratiquement 18%.
Stéphane Pedrazzi, on va voyager un petit peu pour terminer parce que Orient Express, qui est, vous le savez peut-être, une filiale du groupe Accor, Orient Express annonce avoir signé une lettre d'intention pour la construction de deux paquebots à voile. Des paquebots à voile inspirés du concept Silent Seas développé par les chantiers de Saint-Nazaire. Livraison prévue en 2026 et 2027. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
L'Orient Express prend désormais le large. Le groupe Accor a donc confié au chantier de l'Atlantique le soin de construire les deux futurs navires qui seront censés incarner le mythe Orient Express. Ces futurs yachts de 220 mètres de long pourront embarquer 120 passagers dans un cadre particulièrement luxueux et raffiné, 54 suites de 70 mètres carrés avec une gigantesque suite présidentielle de 1500 mètres carrés. Piscine, évidemment, deux restaurants, un théâtre, il disposera même d'un studio d'enregistrement privé si d'aventure les stars qui navigueront dessus souhaitent libérer leur créativité. Côté technique, Orient Express Silent Seas, c'est son nom, sera propulsé par trois voiles rigides qui seront fixées à trois mâts basculants de 100 mètres de haut, une propulsion en GNL et même la possibilité plus tard d'utiliser de l'hydrogène. Le premier exemplaire naviguera en mer Égée, en Méditerranée et aux Caraïbes. Le second devrait lui voguer le long de l'Indonésie.
Ça fait rêver. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. 19h12, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle d'abord la clôture à la Bourse de Paris. Alors, c'est pas passé loin. On a terminé ce soir à 6975 points sur le CAC 40, plus 0,74%. Mais on le rappelait, on a franchi la barre des 7000 tout à l'heure en séance, aux alentours de 15h, ce qui n'était pas arrivé depuis le 17 février 2022, figurez-vous, c'était vraiment quelques jours avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. 6975 points donc ce soir pour l'indice parisien. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve à New York, à mi-séance.
Bonsoir.
Comment ça se passe chez vous sur le marché américain ?
Ça se passe plutôt bien. Après un début de séance hésitant, les trois indices sont désormais en progression après la publication des chiffres de l'inflation, l'indice des prêts à la consommation qui est venu confirmer le ralentissement avec un repli de 0,1% sur le mois de décembre, en ligne avec les attentes de la communauté financière sur un an. C'est une hausse de 6,5%, beaucoup moins que ce que l'on avait vu sur le mois de novembre où la hausse dépassait les 7%. Des marchés donc qui applaudissent cette publication avec une détente du côté de l'obligataire, un 10 ans américain qui est à 3,43 actuellement. L'actualité entreprise, elle est marquée essentiellement par Disney. C'est une bataille qui se profile, proxy fight, alors que le milliardaire activiste Nelson Peltz s'est vu refuser un siège au conseil d'administration de Disney malgré un investissement de 800 millions de dollars il y a deux mois dans Disney. Une demande qui a été refusée, donc rejetée par Disney. Disney qui annonce un nouveau président exécutif parallèlement, Mark Parker, qui est un ancien dirigeant de Nike. Le titre Disney en progression de 4% actuellement, dans une tendance donc positive sur ces marchés américains. Le Dow Jones au-dessus des 34 000 prend 0,9%, le S&P 500 0,6%, le Nasdaq de son côté affiche un gain de 0,5%. On vient juste de passer au-dessus des 11 000. On est au plus haut niveau de la séance.
Merci beaucoup Sabrina, on va retrouver évidemment toute la soirée pour suivre ensemble la fin de cette séance du côté de Wall Street. 19h15 sur BFM Business, Pablo Naclet-Cerutti, le directeur général de Viparis, est avec nous dans un instant. Viparis, c'est Villepinte, c'est le Bourget, c'est le parc des expositions, c'est le palais des congrès, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que les événements parisiens, événements d'entreprise, sont repartis tambour battant cette année ? Est-ce que le digital a fait une percée ou pas finalement ? On va parler de tout ça avec lui dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h17, nous recevons notre deuxième invité, Pablo Naclé-Cerruti, qui est directeur général de Viparis. Bienvenue sur ce plateau.
Bonsoir, monsieur.
Alors, nous allons parler avec vous de comment se porte le secteur de l'événementiel, hein, puisque je rappelle que Viparis est gestionnaire de parcs d'exposition. Donc, c'est 12 lieux événementiels majeurs qui sont situés en Ile-de-France. Ça va de Villepinte au Bourget. Et puis, 800 événements par an, c'est quand même beaucoup. Un chiffre d'affaires de croisière de 300 millions d'euros. Annuel. Alors 2022, année formidable, puisque vous avez retrouvé vos niveaux de 2019. 2024, ça va être aussi formidable a priori, puisque les Jeux Olympiques. Entre les deux, en effet, il y a 2023. Qu'est-ce qui va se passer cette année ?
En 2023, on retrouve la vie normale, si je puis dire. 2022, c'est une année de rattrapage. Il y a un an, à la même époque, on était encore quand même dans la suite Covid. Il y avait pas beaucoup de rassemblements d'entreprises corporate. Il y avait des salons qui étaient décalés de janvier à mars. Et puis, il y a eu un rattrapage colossal, notamment au deuxième semestre, avec le retour des Européens, avec le retour d'événements qui n'ont pas eu lieu pendant 2 ans, 3 ans, qui sont revenus. Et dans le fond, 2023 revient à la cadence normale. Et en ce moment, vous voyez, à la porte de Versailles, on prépare le salon de l'agriculture qui va arriver d'ici quelques semaines. On a Maisons et Objets à Paris dans Villepinte qui vient deux fois par an depuis 25 ans, qui démarre dans quelques jours. Et on a le congrès annuel des cardiologues français au Palais des Congrès.
Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que malgré le contexte inflationniste de ce début d'année, qui est quand même assez fort, ça ne vous pose pas de problème.
Alors, le sujet inflationniste, il existe. Le sujet de l'énergie, il existe. Pourtant, ce dont on se rend compte et ce qu'a démontré l'année 2022 après 2 années de fermeture totale de notre activité, c'est que un salon, un congrès, un rassemblement professionnel, c'est nécessaire pour que les entreprises fassent du business.
Alors voilà.
Et c'est ça que nous a démontré 2022 et c'est ça qui est rassurant.
Mais justement, parce qu'en 2020, combien nous ont prédit que c'était la fin, en quelque sorte, de ces grands raouts finalement physiques. Et la question qu'on voulait vous poser, c'est qu'est-ce qui reste de ça? Le digital, on nous disait ça va être l'avènement du digital, c'est la fin de ces grands messes événementielles à Paris.
Non, il reste les deux.
Il reste les deux, mais dans quelle proportion finalement aujourd'hui?
À nouveau, Viparis 2019, c'est 700 événements, Viparis 2022, c'est 600 événements. Et dans le fond, on a eu un peu moins d'activité, je répète, qui est liée au premier trimestre 22, qui était encore Covid.
Oui.
Et moi, chez mes clients organisateurs, je n'ai pas un événement qui a disparu. Ça, c'est important. En revanche, les événements sont transformés. Quand leur industrie se transforme, c'est le cas du Mondial de l'Auto, qui vit ses propres transformations, et quand l'événement en soi se transforme, c'est le cas de Maisons et Objets dont je viens de parler, qui aujourd'hui a une présence physique très importante, et qui prend plus de 100 000 m² à Paris dans Villepinte, et qui également a une vie dans le monde digital, avec une marketplace d'information et aujourd'hui de transactions.
Est-ce que la part du digital est la même que celle qu'elle était il y a un an et demi? Est-ce qu'on a déjà testé les limites de ce modèle finalement?
Non, l'apprentissage que l'on a fait de la période, c'est que le digital permet de projeter le plus largement possible, et plus largement que ce que l'événement physique permet, tout le contenu généré par l'événement physique. Donc vous avez besoin de la rencontre physique pour avoir des conférences, pour avoir des super speakers, pour avoir des innovations, pour faire du networking, pour faire du business. Et cette réunion, ce rassemblement, crée un contenu. C'est un média, un salon.
Bien sûr.
Crée un contenu qui, live, est envoyé et augmente l'audience de cet événement. Et ensuite, en froid, pour parler comme le ferait un journaliste, permet également de nourrir la communauté tout au long de l'année d'un événement à l'autre. Donc les deux se complètent.
Et alors, juste pour revenir sur Maisons et Objets, puisque c'est le premier salon là qui arrive en ce début d'année, vous n'êtes pas inquiet par rapport aux perturbations qui pourraient être liées aux grèves?
La réponse est oui. Le premier jour de Maisons et Objets, c'est le jeudi 19.
Ah ben voilà.
Autant vous dire que on s'organise avec l'organisateur pour la gratuité des parkings, pour mettre en place des navettes. Il va bien falloir vivre avec ça. Mais très franchement, si on regarde dans le temps, au cours des 6, 7, 8 dernières années, la vie est ainsi faite qu'il y a toujours eu un événement, grève, gilets jaunes, intempéries, Covid.
C'est l'histoire des dernières années. Puisqu'on parlait d'inflation, c'est aussi une question qu'on voudrait vous poser. Est-ce que les prix d'organisation et de participation ont augmenté? Parce que vous avez des frais, il y a effectivement couvrir les dépenses énergétiques, les dépenses alimentaires, etc. Donc est-ce que c'est plus cher d'organiser un événement? Ça coûte plus cher aujourd'hui finalement?
Je le poserai pas en ces termes. La question, c'est est-ce que ça rapporte à l'exposant?
Est-ce que ça rapporte à l'exposant? Oui.
Et dans le fond, ce qu'a démontré 2022, ce que doit stabiliser 2023, c'est que investir sur un événement rapporte. Et moi, il y a un ratio que je regarde à l'échelle de Viparis et qui me parle, c'est que on loue des surfaces, mais on vend des prestations. Et les surfaces ont un peu baissé l'année dernière. Ça, c'est une réalité. Pour autant, à surface constante, l'achat de services a augmenté. C'est-à-dire que les entreprises qui prennent la décision d'exposer sur un événement, peut-être qu'elles sont moins nombreuses, peut-être qu'elles prennent des tailles plus petites. En revanche, elles ont compris qu'elles devaient investir nécessairement en décoration, en réception, en accueil, en sécurité, pour que l'investissement rapporte. Et de ce point de vue, le retour sur investissement demeure.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant. Ouais.
Mais quand on vous écoute, on a un peu l'impression que vous avez des activités finalement qui sont très classiques. Or, vous avez des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Je pense notamment à cette ferme urbaine de 14 000 m².
Vous savez, on est dans la même situation que ce qu'a connu le commerce il y a quelques années, l'hôtellerie plus près de nous, c'est rentrer dans le monde du lifestyle. C'est-à-dire que comment l'expérience physique peut être agréable. Et c'est la raison pour laquelle un parc comme la Porte de Versailles, bah aujourd'hui, vous avez des restaurants, vous avez des hôtels, vous avez de quoi faire la fête la nuit, vous avez du commerce, vous avez une ferme urbaine. Et tout ce côté qui fait que quand vous venez non seulement pour votre événement business, mais également pour passer un moment, c'est important. Et puis on rajoute tout ce qui est grand public. On a en ce moment Friends, l'expo qui est prolongée.
Vous pouvez vous prendre en photo
sur le canapé du Père Coffy. On a Harry Potter qui va arriver dans quelques semaines. On a la Jam Capsule autour de films en immersion 360. Et donc on crée vraiment une expérience de vie agréable et même inoubliable si on peut sur le parking.
Justement, puisque vous parlez de prestations, quelles sont les prestations que vous offrez aujourd'hui, que vous demandent vos clients, qui ne vous demandaient pas forcément avant le Covid finalement? Qu'est-ce qui a changé en l'espace de 2-3 ans pour vous?
Le digital, clairement.
Le digital, évidemment, mais à part ça.
Installer un plateau, comment pouvoir avoir du streaming, comment générer plus de connexions avec un Wi-Fi qui fonctionne, digital.
c'est
manutention.
C'est un must, ça.
Pardon d'être trivial, mais on est avant tout un métier logistique et dans des zones urbaines très denses, avec des métropoles, en l'espèce la métropole de Paris, du Grand Paris, qui se transforme d'un point de vue urbain, ça n'a échappé à personne. Donc la question, c'est comment on arrive encore à monter des salons qui font venir des poids lourds, qui font venir du monde, qui font venir de la manutention. Et là, on doit réinventer notre métier. Et puis tout ce qui est lié à la RSE, parce que désormais, quand on se déplace, on mesure la performance économique de l'événement, temps de l'événement, quel temps on y a passé, est-ce qu'il a été utile ou pas, et naturellement
carbone. Mais alors
carbone.
Justement, évidemment, j'allais vous poser la question, puisque vous évoluez dans un secteur qui est de plus en plus éco-responsable, est-ce que vous sentez que c'est une véritable demande aujourd'hui, notamment des donneurs d'ordre, d'avoir des prestataires, des partenaires qui s'inscrivent dans cette démarche-là?
Oui, parce que dans le fond, une entreprise qui devient exposant sur un salon ou exposant d'un congrès, ou qui loue un espace pour réunir ses équipes ou ses clients, il n'y a pas de raison que l'événement qu'elle va produire soit dissonant des valeurs qu'elle a dans le reste de son activité et de son core business. Donc notre rôle, c'est de répondre aux préoccupations de transition et digitale, j'en ai parlé, et énergétique, slash carbone, slash écologique des entreprises. Ouais. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de contribuer à diminuer l'impact carbone d'un événement et donc c'est de la stratégie globale de l'entreprise.
Et voilà. 5,7 milliards d'euros de retombées économiques pour l'Île-de-France, c'est ça aujourd'hui le tourisme d'affaires à Paris. Hein.
C'est quand même assez... Alors j'aime bien ce chiffre, parce
c'est incroyable.
Que c'est chaque année, alors jusqu'à 2019, puis on espère que ça va revenir en 2023, mais ce chiffre correspond stricto sensu à ce que les Jeux Olympiques ont modélisé pour leur apport pour toute la France seulement en 2024.
Voilà.
Vous avez l'équivalent des JO chaque année en Île-de-France grâce à cette industrie.
Alors
c'est pas mal.
Un mot rapide justement sur ces Jeux Olympiques, parce qu'évidemment c'est votre horizon principal. Hein. Ces JO, ils vont occuper 3 de vos sites, c'est ça?
Alors 4 depuis juin, puisque Le Bourget, Porte Maillot, Porte de Versailles et Paris-Nord-Villepinte également.
Et vous allez vous transformer en gestionnaire d'événements?
Alors on va se transformer en gestionnaire d'événements et j'espère également en organisateur d'événements, puisque il y a 7 événements sportifs à la Porte de Versailles et j'espère bien que ce sera Vipari, l'organisateur, pour le compte des Jeux Olympiques.
Et bien nous aussi.
Et ben voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pablo Naclé-Céotti, directeur général de Vipari. Bonjour. Pouvez-vous les citer les 12 là? Alors, Villepinte, Bourget, Parc des Expositions, Palais des Congrès, allez deux têtes comme ça.
Champéret, Espace Grande Arche, le CNIT, le Carrousel du Louvre, le Palais des Congrès, d'ici les Moulineaux. Et puis après, on a des sites dans les sites.
J'avais réussi le test.
Paris Scandinavian Center, on en a.
Voilà. Tout ça, c'est vous. Voilà, Vie Paris. Merci beaucoup, Pablo, d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business.
Edwige 19h27. Chevrier est avec nous, Guillaume.
Chevrier,
absolument, je suis à un autre site aussi. Je suis votre 13e site.
Bonsoir, Edwige.
Bonsoir, Guillaume.
Vos invités,
bonsoir,
ouais, sont deux dans quelques minutes.
Hein. Oui, absolument. Un débat pour savoir est-ce qu'il y a un risque sur l'économie française avec ce bras de fer qui s'engage avec les syndicats, la CGT très dure sur le plan de l'énergie. On verra aussi l'appel à la responsabilité d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'il peut être entendu ou pas? Et puis, c'est une bonne nouvelle quand même du côté du parc nucléaire français. Vous avez vu, ça repart.
Oui.
Les chiffres sont là, au moins pour quelques temps. Et est-ce que ça peut suffire peut-être pour éviter les pannes de les coupures d'électricité? Voilà, beau débat. Eli Cohen, Nicolas Bouzou.
Nous sommes redevenus un exportateur net d'électricité.
Oui, voilà. Faut le dire vite, mais on est revenu, vous avez raison.
Exactement. Merci beaucoup. Edwige Chevrillon avec nous, dans un instant, pour vous accompagner jusqu'à 20h sur BFM Business.
Et nous, on se retrouve demain.
18h.
Bonne soirée à tous.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec deux grandes interviews puisque je reçois Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet Asterès. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et Eli Cohen, économiste, directeur de la recherche au CNRS. Bonsoir Eli.
Bonsoir.
J'ai envie de dire un qui est plutôt un industriel, on va parler d'énergie, on va parler de ce bras de fer avec notamment la CGT, l'impact que ça peut avoir sur la croissance française. Et Nicolas Bouzou, plutôt aussi le côté un peu social sur les retraites. Justement, un petit point, on va pas refaire tout le film, mais juste cette réforme des retraites, elle vous paraît juste et équilibrée pour reprendre les éléments de langage des différents ministres?
Oui. Non, mais enfin, écoutez, non, mais c'est une réforme. Bon, il faut la... Alors, je vais pas tout redonner
non,
les chiffres du coronavirus parce que tout le monde les connaît.
Et
on n'en peut plus.
Votre sentiment,
c'est
oui,
une réforme paramétrique comme on en fait une tous les 6 ou 7 ans. Elles sont nécessaires tous les 6 ou 7 ans. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y en aura une à l'horizon de 10 ans où ce sera à peu près la même, qui aura le même type de blocage. Oui, il faut la faire. Tout ça me paraît absolument pas dramatique.
Et pour vous, Eli Cohen?
Oui, parce que je trouve que le gouvernement a pris soin d'emblée de mettre en place toute une série de dispositifs sociaux qu'on attendait plus tôt au cours de la négociation, et sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les handicapés, sur le minimum contributif, et tout a été mis sur la table d'emblée, ce qui fait que le choc du recul de l'âge de départ à la retraite est beaucoup moins violent que ce qu'on aurait pu anticiper. Et donc, au total, je trouve que c'est une réforme équilibrée.
Réforme équilibrée, en tous les cas, évidemment, c'est pas du tout ce que ressentent les syndicats. C'est déjà un peu le bras de fer. On a entendu les propos quand même très durs hier de la CGT qui demande un conflit dur. Je pense qu'on va rentrer dans un conflit dur qui va durer parce qu'on imagine bien que le gouvernement ne va pas céder en quelques jours. Et puis, de l'autre côté, l'appel à la responsabilité d'Elisabeth Borne. Est-ce que ce bras de fer, il est inévitable? Est-ce qu'il va durer? Est-ce que la France va être paralysée?
Oui, il est inévitable. Les Français ont une relation très particulière avec la retraite. Ils investissent énormément dans la retraite. Pourquoi ? D'abord parce que toutes les insatisfactions dans le travail sont reportées sur le moment de la libération, qui est le moment de la retraite. Mmh. Ensuite, parce que la France est le pays, comme vous le savez, qui travaille le moins en heures sur une durée, sur une vie entière. Et ça, c'est dû essentiellement à la retraite. Et c'est une retraite qui fait que, en moyenne, les Français vivent à la retraite 20 ans à peu près. Donc c'est vraiment un moment de leur vie qui conditionne...
Une tranche de vie.
C'est une tranche de vie très importante. Et je dirais c'est une tranche de bonne vie après ce qui est vécu comme une contrainte, c'est-à-dire un travail qui est parfois physiquement harassant, nerveusement harassant. Et donc quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est pas une question d'arbitrage entre faut-il mettre plus de moyens sur la retraite, plus sur l'éducation, plus... Non, la retraite, c'est absolument sacré. Qu'est-ce que c'est que 3% de déficit? C'est l'argument qu'on entend tout le temps. Franchement, quand on accumule les milliards et les milliards de déficit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout ceci ne s'explique que par cet attachement très particulier des Français à la retraite. Et donc, oui, il y aura un affrontement important.
Nicolas Bouzou, vous partagez ce sentiment aussi? Est-ce que la France va être paralysée?
Oui, tous les premiers ministres, vous le savez, vous expliquent que la réforme qui engage le plus de capital politique, c'est la réforme des retraites. Donc ça, c'est quelque chose qui est systématique. Énormément de choses ont été dites ces derniers jours et c'est un peu redondant.
Je voudrais peut-être ajouter deux choses. J'essaie de me projeter
bien
un
sûr,
peu.
Oui. Je voudrais, si vous le permettez, ajouter rapidement deux choses au débat de points que je n'ai pas beaucoup entendu. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 1981, l'âge légal de départ en retraite a été réduit à 60 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les choses avec beaucoup de recul, en réalité, on peut considérer que cette réforme, ça n'est pas tant un durcissement qu'un retour ou la correction d'une anomalie qui a donc été décidée par François Mitterrand en 1981. Parce qu'il est vrai que si on n'avait pas abaissé l'âge légal des retraites à 60 ans en 1981, on aurait une moindre réforme à faire et on aurait un âge légal, alors il n'y a pas que l'âge légal dans les paramètres, mais on aurait un âge légal qui serait en ligne avec ce qui est autour de nous, c'est-à-dire 65, 66, 67 ans. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'était peut-être un peu en filigrane dans les propos d'Eli Cohen, c'est, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, mais qu'on voit depuis maintenant deux ou trois ans, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup entendu dans les conversations sur les plateaux télé, c'est on n'en peut plus de travailler. Alors, bien évidemment, d'un côté, c'est quelque chose qui me pose problème pour des raisons philosophiques, mais aussi pour des raisons économiques. Mais en même temps, je pense que ça doit aussi interpeller les entreprises. C'est-à-dire que je crois que les entreprises doivent quand même se demander pourquoi est-ce que une très grande partie de nos concitoyens veulent partir en retraite. Alors, je ferai jamais l'apologie, bien évidemment, du droit à la paresse, etc. Je trouve que tout ceci est absolument inepte. Mais en revanche, je pense que ce rapport, cette dégradation du rapport au travail doit être l'occasion pour les entreprises de remettre sur la table un certain nombre de problèmes managériaux.
Alors, c'est un problème, si vous voulez, d'autant plus important que la philosophie essentielle de la réforme Macron, c'est justement de faire travailler les Français plus.
Voilà. Parce que d'augmenter les taux d'activité.
Voilà. Pour faire remonter les taux d'activité et apporter une dynamique supplémentaire de croissance. Comme vous le savez, les gains de productivité sont plutôt faiblards. Par contre, nous avons une anomalie forte, c'est que les taux d'activité à l'entrée de la carrière et à la sortie de la carrière sont faibles, donc il faut faire remonter ces taux d'activité, et en particulier dans la tranche 59-64 ans, il n'y a qu'un tiers à peu près des gens qui travaillent, il faut faire monter ce taux d'activité. Et en même temps, le message que nous envoient les Français, c'est on n'en peut plus, on est cassé, voilà.
Mais moi, en vous écoutant, et puis déjà, en fait, on a envie de dire, cette réforme des retraites, c'est quelque part, je fais un peu de provocation, surtout ici à BFM Business, mais c'est un peu à cause des entreprises. C'est que, un, les gens n'ont plus envie de travailler trop longtemps. Il y a un rapport au travail, comme vous venez de le souligner, qui n'est pas très bon. Et puis, deux, il y a un taux d'activité qui est très mauvais sur les seniors, ce qui fait qu'il faut les obliger à avoir, à faire travailler et à conserver leurs seniors. Donc, quelque part, c'est la responsabilité des entreprises qui font qu'on est dans cette situation. Non,
en tout cas, la responsabilité des partenaires sociaux. La question du taux d'emploi des seniors, c'est très difficile de demander au gouvernement de prendre des mesures sur le taux d'emploi des seniors. Je pense même que c'est absolument pas souhaitable. Alors, d'ailleurs, le gouvernement a dit on fait un index, il donne de l'information, c'est très bien.
Mais enfin, c'est les entreprises qui sont responsables.
Alors, oui, mais les partenaires sociaux aussi, parce que je trouve parce que les syndicats de salariés, au fond, sont pas très engagés sur cette question du taux d'emploi des seniors, qui nécessite quand même une réflexion assez profonde sur la santé au travail, sur la formation tout au long de la vie, sur la baisse du temps de travail en fonction de l'âge. Vous voyez, des dispositifs assez innovants qu'on ne traite pas suffisamment.
Mais vous avez raison de soulever la question. Moi, je suis frappé de constater qu'en jeudi, des enquêtes européennes sur la satisfaction au travail des salariés, il y a un vrai point noir français.
Oui, absolument.
Il y a un vrai point noir français. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû, effectivement, à la qualité des relations sociales. C'est dû au problème de l'investissement du management dans cette question. Mais c'est vrai qu'il est pas normal qu'on ait cette espèce de rejet du travail, de la vie au travail dans les entreprises, et notamment dans les entreprises industrielles.
Alors, quand même, je reviens à ma première question. Le rapport, ce bras de fer attendu, voulu, souhaité presque par certains, entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter? Non, vous avez dit.
Bah non, j'ai été comme tout le monde, cueilli ce matin par l'annonce des...
6 jours de grève, pas améliorer.
Voilà, des jours de grève dans le domaine du raffinage et de la distribution pétrolière. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, on va pas recommencer.
Eh ben voilà.
Eh ben oui, et donc il y a l'air d'y
24
avoir...
24 heures le 19 janvier, le 26 janvier, ça sera 48 heures, puis 72 heures le 6 février.
Et donc je crains la suite, c'est-à-dire l'annonce dans les chemins de fer de mesures qu'on parable. Et donc voilà, on va rejouer la scène habituelle de la paralysie progressive, de l'installation d'un rapport de force qui ne débouchera pas sur la remise en cause de la réforme. Ça, on peut le dire
non,
déjà.
Il y a un sondage du reste qui vient d'être publié par le confrère d'Odexa et pour le Figaro, qui dit que 65% des Français soutiennent le mouvement du 19 janvier, mais déjà un peu les griefs sont en train de s'éteindre, et ils savent bien que de toute manière, il n'y aura pas de retraite. Ils sont résignés, les Français, en fait.
Je pense qu'un effort de pédagogie que peut faire le gouvernement, peut-être, c'est d'expliquer que cette réforme est très progressive et donc que pour beaucoup de nos concitoyens, c'est encore quelque chose qui est abstrait, parce que c'est pas le départ en retraite n'est pas repoussé de 2 ans pour ceux qui ont 61 ou 62 ans. Donc c'est pas ça. Après, si on fait un peu d'analyse politique, je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le président de la République a renoncé à une réforme des retraites. Il a déjà renoncé à une réforme des retraites.
Et pourquoi donc, on l'imagine. 64, 65 ans, est-ce que ça change?
Il a renoncé lors de son premier mandat
systémique.
À la réforme systémique. Oui, mais enfin, bon, c'était une réforme des retraites. Et donc, au fond, il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de grande réforme durant le premier quinquennat et la première année du deuxième quinquennat. On l'imagine mal renoncer à cette deuxième tentative de réforme, d'autant plus qu'il ne sera plus candidat.
Non, mais pas seulement, parce que la nouveauté de cette réforme-là, c'est qu'elle s'inscrit, je dirais, dans le cadre traditionnel. Le cadre traditionnel, c'est les perspectives démographiques font que il va y avoir de plus en plus de
moins
retraités,
en moins plutôt
de plus en plus de retraités pour de moins en moins de cotisants. Oui. Premièrement, deuxièmement, il va y avoir une situation dans laquelle, même en tenant compte des dispositifs des carrières longues, etc., il va falloir en rajouter une couche, et donc. Il va y avoir un trou financier, même sous des hypothèses favorables de croissance, de gains de productivité et de chômage. Parce que quand vous lisez le rapport du COR...
Dans tous les scénarios, il y a un déficit.
On vous annonce 1,6% de gains... Non, attendez, 1,6% de gains de productivité, je vous signale qu'on a fait 0,7% sur les 10 dernières années.
Le rapport du COR, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut, dans un sens comme dans l'autre.
Dans tous les scénarios, il y a des déficits
Attendez, alors moi j'ai des arguments, j'ai...
Alors allez-y, si vous avez des arguments.
Le rapport du COR, vous êtes d'accord, on parle de 10 milliards, plus 10 milliards, enfin c'est entre 10 et 13 milliards.
Oui.
Et puis en même temps, vous voyez, c'est ce que... vous avez 80 milliards de dividendes qui ont été versés en 2022. Vous avez 140.
Quel rapport
non, mais vous voyez, quel ça fait beaucoup de milliards. Je veux dire, c'est.
Non, mais quel rapport?
Il y en a certains qui disent, attendez, il y a 140 milliards d'aides.
Non, si vous vous lancez sur ce terrain-là, vous avez des études périodiques qui vous montrent que la France est le pays qui taxe le plus les entreprises, que même. Quand on tient compte des aides, même quand vous avez les prélèvements bruts moins les aides, vous avez quand même la France qui est le pays qui taxe le plus les entreprises. Vous avez toutes les études qui sortent régulièrement sur la compétitivité. Sans même regarder les résultats, vous avez constaté la décroissance continue de notre industrie, le déclin industriel prolongé. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez besoin de preuves supplémentaires pour dire que ça suffit, qu'il n'y aura pas de prélèvements nouveaux sur les entreprises?
Vous voyez, c'est un des arguments
Premier argument. Deuxième argument, on a des besoins qui sont rappelés tous les jours en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de transition énergétique. Est-ce que vous croyez que la priorité essentielle, c'est de mettre plus sur les retraites et de continuer à laisser s'étioler le système de santé, le système éducatif, etc. À un moment, un gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et ça s'appelle un arbitrage dans les politiques publiques. Et l'arbitrage que fait le gouvernement, c'est de stabiliser la part dans le PIB de la politique de retraite, et les éventuelles marges de manœuvre supplémentaires qui pourraient être dégagées seront réservées soit au désendettement, soit à l'éducation, soit à la santé.
Nicolas Bouzou, vous partagez ce sentiment?
Vous
avez fait l'analyse politique. Vous avez commencé à faire l'analyse politique. On peut aussi faire l'analyse politique en disant Emmanuel Macron, il avait besoin de faire une réforme. Parce que, comme vous l'avez souligné tous les deux, il n'en a pas fait lors de son premier quinquennat. Donc là, Il y en a besoin pour l'Europe, il y en a besoin.
Oui, non, mais il en a besoin.
Pas forcément pour le système de retraite.
Si, il en a besoin politiquement.
Oui, ça c'est politiquement, on est bien d'accord.
Il en a besoin économiquement, parce qu'en effet, les gains de productivité étant ce qu'ils sont, si on veut avoir un peu de croissance ces prochaines années, il faut qu'on augmente la quantité de travail dans l'économie. Et l'augmentation du taux d'emploi des seniors, c'est un levier qui est un peu comme l'augmentation du taux d'emploi féminin dans les 30 Glorieuses. Le taux d'emploi féminin entre, de mémoire, 1960 et aujourd'hui, il a dû passer de 50% à peine à 70%. Et ça a été une contribution très importante à la prospérité d'après-guerre. Donc c'est un petit peu le même type de raisonnement qu'il faut faire aujourd'hui avec ceux qu'on appelle les seniors, mais qui d'ailleurs sont pas vieux en fait. Hein. Enfin, je veux dire 60 ans, bon, faut pas. On peut travailler. Donc on en a besoin du point de vue économique et on en a besoin du point de vue financier parce que les appels sur la dépense publique n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Ouais. Il faut plus de magistrats mieux payés, il faut plus de policiers mieux payés, il faut plus d'enseignants mieux payés, il faut augmenter les dépenses de défense. Faut doter la branche autonomie qui n'est pas dotée, il faut redonner de l'argent à la santé. Donc je pense quand même qu'il est, en étant de bonne volonté, on peut comprendre que sur les retraites, comment au moins, on peut transformer nos déficits en solde nul ou en léger excédent.
Comment faire parce que là, c'est la bataille de l'opinion qui est lancée. Là, oui. On voit bien, il y a le bras de fer avec les syndicats, l'appel à responsabilité d'Elisabeth Borne, et puis en même temps, vous avez la bataille de l'opinion. Ça y est, c'est parti. Ils sont dans
la bataille de l'opinion
qui montre qu'ils sont peut-être un peu en train de la gagner, hein, l'URS.
La bataille de l'opinion, à mon avis, c'est d'expliquer ce qu'est véritablement l'économie de cette réforme, c'est-à-dire effectivement un allongement de la durée d'activité d'à peu près un an, mais avec toute une série de compensations sociales qui sont particulièrement significatives. Ouais. Je veux dire, mettre le minimum contributif à 1200 euros...
Ouais, enfin, même ça, les chiffres sont un peu flous, c'est pas exactement 1200 euros. Hein. Enfin, bon,
1200 euros, le gouvernement s'est engagé sur un minimum contributif qui devrait représenter 85% du SMIC. Pardon. Bon, alors après, est-ce que ça s'appliquera uniquement aux nouveaux ou aux anciens? Normalement, le gouvernement a dit que ça s'appliquera et aux nouveaux et aux anciens. Est-ce que ça s'appliquera à tous les anciens ou uniquement aux anciens qui avaient un niveau de revenu au niveau du SMIC? Bon, on peut rentrer dans les détails, mais enfin, ça représente une avancée significative. Absolument. Il y a une avancée significative également sur les handicapés, pour lesquels il va y avoir une nette amélioration des retraites. Il y a également tout ce qui est sur les carrières longues. Donc,
je crois que
le gouvernement va devoir vendre cette réforme.
Oui, c'est ça, mais il faut qu'il remporte cette bataille de l'opinion, parce que si jamais on va vers de nouveau une paralysie, un blocage, ça aura forcément là aussi un impact sur la croissance française. On a bien vu, hein, le blocage des raffineries, ça a été pas mortel, mais enfin, ça a été quand même très très violent pour l'économie française. Ouais. Parce que si on. Si on va rentrer de nouveau dans une spirale, vous me direz, vous pouvez pas le savoir, mais.
Non, mais c'est surtout pas agréable, en fait. c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les chiffres sur la croissance, rétrospectivement, on n'a jamais des chiffres qui sont très importants avec ce type de mouvement. Et puis, on voit qu'il y a des effets de rattrapage, qu'il y a de l'activité. Il y a un peu d'activité qui peut être différée, etc. Pas à 100%, mais et puis surtout, il faut mettre ça en rapport, en balance avec le coût de ne pas faire cette réforme, si vous voulez. Donc, si vous m'interrogez froidement et rationnellement, je me dis, c'est une espèce d'investissement, si vous voulez.
La France est bloquée.
Elle le sera.
Oui.
Elle le sera, et ce sera très, très, très pénible. Voilà. Je ne sais pas mieux vous dire que ça, et pour le gouvernement, il faut tenir.
Avant même l'annonce de ces mouvements, quelles étaient les prévisions? Les prévisions de croissance pour la zone euro, c'était 0+. Ouais.
La France un peu plus.
La France un petit peu plus, mais dans une zone euro qui est à 0+. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate que chaque fois par rapport aux prévisions, la France fait un tout petit peu mieux.
Ah oui, mais ça nous coûte des milliards quand même.
Mais d'accord,
c'est pas un miracle.
Non, mais attendez, la France fait un petit peu mieux. Et même en matière d'emploi, le système témoigne d'une résilience qui est assez étonnante. Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, c'est pas ce que vont faire les gens du pétrole qui risquent de remettre en cause fondamentalement cette image macro.
Juste encore un point, bien que je voulais continuer sur l'industrie, mais en fait, le bras de fer, il est notamment avec la CFDT. Là, c'est un bras de fer Macron-Berger, enfin Laurent Berger. Non, vous êtes d'accord avec moi. Il va avoir un perdant.
Oui.
Mais ça peut risquer d'être violent comme conséquence. Parce que même si Macron qui l'emporte, il sera peut-être très content, c'est le président de la République. Mais si Laurent Berger et la CFDT très affaiblis, ça on va le payer.
Oui, c'est l'un des éléments qui m'amène à penser, même si c'est très difficile de faire de la prévision dans le domaine social, mais qu'en effet, le mouvement sera dur et qu'il peut durer. Parce qu'on est, avoir tous les syndicats contre soi. Bon, alors on a un précédent, hein, quand Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans.
Il n'y avait pas eu des mots aussi durs de la
CFDT.
Non, mais
il n'avait aucun syndicat avec lui, pas même la CFDT. Donc oui, on a quand même un peu le sentiment de faire face un peu toujours au même scénario.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que Laurent Berger a pris le risque, dès le départ, de s'opposer à cette réforme en disant clairement, ça sera sans nous. Je n'accepterai aucune mesure qui recule l'âge de départ à la retraite. Il l'a dit très clairement. Petit 1. Petit 2, la CFDT est devenue le premier syndicat en France. Et donc, un premier syndicat qui s'oppose dès le départ et qui, dans le combat, montre sa détermination, eh ben, ça montre que la CFDT devient le premier syndicat qui sait se battre pour la défense des travailleurs. Non, mais ça fait rien. C'est-à-dire, le combat syndical, il n'est jamais toujours gagnant. Le combat syndical, c'est la capacité de mobiliser, c'est la capacité de proposer des mesures alternatives, c'est la capacité de mettre en échec telle ou telle disposition, c'est la capacité d'arracher à la dernière minute telle ou telle concession. C'est pas gagné à tous les coups en contraignant le gouvernement à retirer purement et simplement un plan de réforme.
Ouais.
Donc non, il peut parfaitement bien s'en tirer.
Une bonne nouvelle, il nous reste 4 minutes, ça passe vite en fait, on aurait pu passer l'heure sur ce sujet. Le parc nucléaire français qui retrouve sa puissance, on a appris ça tout à l'heure, c'est 45 gigawatts de capacité de production. Cocorico,
c'est le bon indicateur. Parce qu'on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Mais enfin, c'est bien, parce qu'on consomme assez peu d'électricité cette année, notamment pour de mauvaises raisons,
en raison
de la douceur du climat. Enfin bon, mais c'est bien. Après, pour moi, ce sujet de la production d'électricité décarbonée, c'est l'un des sujets majeurs de ces prochaines années. C'est-à-dire que c'est à la fois la question du... Alors, à très court terme, évidemment, remettre en marche notre parc nucléaire, utiliser des nouveaux leviers, mais qu'on peut mobiliser rapidement, comme le biogaz, par exemple. Ça peut se faire en 2-3 ans, une centrale de biogaz. À moyen terme, les énergies renouvelables, ça, c'est 5-6 ans sur Terre et 10 ans en mer, et à long terme, le nucléaire, les EPR. Il faut tout faire, je mets tout le monde d'accord. Enfin, on a absolument besoin de déployer massivement toutes nos capacités de production d'énergie décarbonée. Voilà, pour moi, sujet, mais
majeur. On n'aura pas de coupure d'électricité. Alors, vous me direz, il fait 12 degrés, donc on est d'accord.
On n'aura pas de coupure d'électricité.
Ça y est, c'est sauvé.
C'est sauvé. Parce que le temps a été incroyablement clément. Oui. Parce que EDF a été capable, finalement, de faire des réparations nécessaires dans le temps qu'elle s'était impartie. Mais enfin, il faut quand même faire le bilan.
Il y en a d'autres qui vont avoir lieu en 2023.
Il faut quand même faire le bilan. Le bilan, c'est que 2022, ça sera l'anus horribilis du nucléaire français. On aura tourné à peu près 60% de notre capacité, alors qu'il y a encore quelques années, on visait un objectif de 95%. Donc, c'est vous dire l'écart formidable entre les capacités théoriques et les capacités réellement produites. C'est l'année où on aura importé de l'électricité de nos voisins, on aura importé de l'électricité carbonée, alors qu'on aurait dû être le pays qui aurait dû exporter massivement de l'économie décarbonée grâce à notre effort nucléaire.
On l'a appris en fin d'après-midi, Emmanuel Macron va recevoir des grands patrons d'entreprises françaises à l'Élysée demain pour parler de la contre-offensive de Bruxelles par rapport à l'IRA.
Oui.
Est-ce qu'on peut espérer, c'est quelque chose que je posais hier au ministre de l'Industrie, Roland Lescure, est-ce qu'on peut espérer une réponse rapide de l'Union européenne? Parce que là, c'est les Français, c'est Macron qui décide de le faire. Thierry Breton a dit hier, il faut une offensive au niveau de Bruxelles. Est-ce qu'on peut être suffisamment rapide pour dégainer et contrer l'IRA?
En un mot, on peut dire que Macron essaye de bâtir un consensus autour d'un Buy European Act qui soit la riposte au Buy American Act, mais que jusqu'à présent, il n'a pas pu emporter la conviction des petits pays qui sont les plus libre-échangistes, et je doute qu'on puisse trouver un accord
à 27. On peut le faire rien qu'en France? Non, c'est difficile.
Ah ben non, c'est la politique commerciale, c'est une prérogative européenne.
Ouais.
L'enjeu, il est vraiment crucial là aussi, parce que c'est en ce moment que ça se joue. Et on a une fenêtre de tir. L'Occident, en fait, a une fenêtre de tir en raison des problèmes de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est en train de perdre en attractivité. La Chine, qui était le pays de la prévisibilité, devient le pays de l'imprévisibilité. Et donc, aujourd'hui, les grandes implantations industrielles, les nouvelles, elles regardent l'Europe et les États-Unis. Et aujourd'hui, bien évidemment, elles préfèrent les États-Unis à l'Europe. Ouais. Mais vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on aurait une fenêtre d'opportunité, et c'est maintenant que ça se joue.
Ouais. Et c'est un des grands enjeux. On en parlera beaucoup à Davos, au World Economic Forum, où je serai la semaine prochaine, où il y aura tous les grands énergéticiens qui
seront sur notre plateau. Oui, parce que c'est une nouveauté. La notion de sécurité d'approvisionnement, la notion de sécurité sanitaire, la notion de régionalisation des chaînes de valeur, ce sont des thèmes nouveaux, et ça veut dire que on voit le monde tel qu'il est. Le monde n'est pas uniformément plat, et donc il faut trouver des stratégies pour assurer nos approvisionnements.
Merci beaucoup, messieurs, en tous les cas, de participer à ce débat. Nicolas Abouzou, Eli Cohen. Petite question comme ça, oui, non, pour l'uniforme à l'école?
Non.
Non? Non, ben voilà, c'est rapide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez François Sorel, évidemment, pour Tech & Co. Et vous pouvez surtout nous retrouver sur le QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision, ou alors sur BFM Business en replay. Bonne soirée messieurs, bonsoir à tous.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.